Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Salut à tous, salut à toutes.
Bonjour, nous sommes le vendredi 22 septembre, il est 12h31.
Et vous êtes bien sur Radio Galère, c'est les infos choisies.
Et sur Ayoli
et
FM.
Sur à Avignon.
En Avignon, voilà.
Le mercredi 20 septembre de l'an de grâce 2023, Emmanuel Macron Ier recevait le roi Charles III d'Angleterre et la reine Camilla. On rappelle que leur visite avait dû être reportée en mars dernier en raison des mutineries que quelques gueux propageaient dans le royaume pour grappiller quelques années de retraite. Mais quelle indécence! Un fastueux banquet s'est tenu en l'honneur des souverains britanniques en la galerie des glaces du château de Versailles. Toute la cour était réunie, quelques 160 convives, parmi lesquels les self-made men Bernard Arnault et Xavier Niel, et toute une suite de grands patrons et patronnes, de marchands d'armes, de stars du cinéma, de la chanson et de la politique. Le dîner a été concocté par les grands chefs étoilés du moment et a été servi en entrée. Homard bleu et tourteau de casier avec un voile d'amande fraîche et un trait de gel de menthe coque, inspiré des goûts de Louis XIV. Les invités ont dégusté en plat principal une volaille de Bresse au parfum de maïs, marinée au champagne et agrémentée d'un gratin de cèpe. Le maître fromager, quant à lui, proposait un comté de 30 mois d'affinage ainsi qu'un Sickleton, spécialité anglaise. Enfin, le dessert. Un macaron Ispahan à la rose composé d'une compotée de framboises cuites et crues, d'un sorbet litchi à la rose, d'un sorbet framboise, le tout sur un disque très fin de macaron. Les autorités françaises, si elles ont eu la délicatesse de nous révéler à l'avance le goût du festin, elles sont toutefois restées discrètes sur le coût des agapes. Mais c'eût été d'une vulgarité. On rappelle que 51% de la population saute occasionnellement un repas faute de moyens. Les Restos du Cœur qui se substituent à un service qui devrait être public, qui galèrent à trouver des subsides et peinent à suivre les demandes, ont servi 22% de repas en plus l'hiver dernier par rapport à l'hiver précédent. Plus de la moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans et de plus en plus sont des travailleurs et travailleuses. Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire et des grandes surfaces n'a jamais été aussi élevé depuis 30 ans. Les entreprises répercutent en fait plus que la hausse des coûts et ne baissent pas les prix quand le cours des matières premières redescend. Les distributions de dividendes continuent à battre des records en France et dans le monde. Et pour lutter contre l'inflation, la ministre Olivia Grégoire propose de faire rentrer des cours de cuisine à l'école. Comme d'hab, les riches se goinfrent en nous imposant les efforts qui s'étouffent avec leurs homards et leurs macarons.
Et notre souverain Emmanuel Macron rejoint le souverain pontife, le pape François, à Marseille ce week-end. Donc il y aura la manif contre le racisme expédiée dans le 3e arrondissement, la papa mobile sur la corniche avec toutes les personnalités, les supporters de rugby dans toutes les fan zones réparties et les 12 000 flics déployés sur tout le territoire. Ça va être étonnant, détonnant, je ne sais pas. En tout cas, Macron rejoint le pape. Pour autant, l'église est bien séparée de l'État. Dans une rentrée où l'on parle beaucoup de laïcité à cause de l'abaya, une robe culturelle, ça fait grincer des dents.
Les infos choisies, vendredi.
Les infos choisies, vendredi.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et on commence par le point sur la situation des mineurs isolés. du campement devant le lycée Thiers. Donc mercredi dernier avait eu une manifestation des jeunes devant le conseil départemental. Vous pouvez réécouter un reportage réalisé lors de cette action dans les infos choisies de la semaine dernière du 15 septembre. Ils dénoncent donc le refus du CD13 à appliquer la loi, laquelle exige une mise à l'abri immédiate de chaque jeune isolé sur le territoire français, le temps de l'évaluation de leur minorité. Ils alertent sur leur situation. Deux manifestations ont eu lieu, trois communiqués ont été rédigés, de nombreux articles de presse, mais rien ne bouge. Depuis des années, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pratique la politique du découragement, fait des évaluations bâclées et à charge avec des questions intrusives et racistes. N'oublions pas qu'il est régulièrement condamné par le tribunal administratif pour ses pratiques illégales et que dans 70% des cas, les condamnés par les juges des enfants contredisent les évaluations défavorables de la DAP13. Depuis une semaine, donc, les autorités n'ont rien fait pour prendre en charge les personnes. Face à ce mépris des institutions, les jeunes hier, jeudi 21, se sont tournés vers la communauté chrétienne et ont demandé à dormir dans l'église Notre-Dame-du-Mont. Dormir à rue, c'est usant. L'état de santé physique et psychique des jeunes est difficile. Et ce week-end, Marseille s'apprête justement à accueillir le pape et le président Macron pour questionner le défi des migrations. Alors que l'Église affirme que ce défi ne peut se résoudre sans mettre au premier plan la dignité humaine et les personnes, l'Europe et la France continuent de marchandiser et de criminaliser des corps en exil. Alors que le pape souligne l'importance de la liberté d'émigrer, l'Europe continue à prendre le déplacement des populations encore à rendre encore plus dangereux en sécurisant et militarisant ses frontières. Alors que l'Église met au centre de ses rencontres la fraternité et la rencontre des cultures, le gouvernement français refuse d'accueillir les exilés de Lampedusa et adhère au discours de l'extrême droite qui plaide pour un blocus militaire et un mur juridique. N'oublions pas enfin que l'Europe non seulement peut mais doit accueillir plus d'exilés. Ce n'est pas en rendant les frontières et la Méditerranée encore plus meurtrières que s'arrêtera le déplacement des personnes en exil et ce qu'ils appellent des flux migratoires.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Ok, mardi matin, la journaliste Ariane Lavrieux a été perquisitionnée et placée en garde à vue, une garde à vue qui a duré 39 heures, par la DGSI, donc la Sécurité Intérieure, qui s'occupe d'habitude plutôt de trucs de terrorisme. Et là, à 6 heures du mat, donc, elle a appris qu'elle était surveillée depuis quelques temps, elle a vu les keufs récupérer les données de ses téléphones, de ses disques durs, et pour être après emmené au commissariat à l'évêché, donc à Marseille. Là-bas, les geôliers lui ont refusé l'accès à ses médicaments, les médicaments qu'elle avait amenés. Et puis, elle a été interrogée pendant des heures par, du coup, les flics de la DGSI. Ariane Lavrieux est donc visée par une enquête pour compromission du secret de la défense nationale et révélation d'informations pouvant conduire à identifier un agent protégé. Alors ce qui lui est reproché, c'est une enquête qu'elle avait menée et qui avait été publiée dans le journal Disclose, portant sur les dérives d'une opération de coopération militaire, donc à visée antiterroriste, entre la France et l'Égypte, et en fait qui avait eu pour finalité des exécutions de civils, des contrebandiers qui opéraient entre la Libye et l'Égypte. Donc l'armée égyptienne avait en gros détourné cette coopération militaire avec la France. Pour mener cette enquête, la journaliste elle avait eu accès à des documents qui étaient classés confidentiels défense. Et du coup, le but de sa garde à vue, la garde à vue de cette semaine, c'était l'identification de des sources qui lui avaient fourni ces documents. Alors on va écouter Mathias Destal, le cofondateur du journal Disclose dans lequel est parue l'enquête, et puis Tristan Valex de l'émission Complément d'enquête qui avait relayé l'affaire.
Sans secret des sources et sans le fait de protéger ces sources, donc en gardant son droit au silence, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de possibilité d'informer le public en toute indépendance. C'est le droit fondamental de tous les journalistes Et c'est la pierre angulaire même de notre métier et de la liberté de la presse. Donc elle a fait ce que Virginie et toute l'équipe de Disclose, on avait estimé nécessaire déjà en amont, parce que quand on publie des documents confidentiels défense, évidemment, on se prépare à une réaction, puisqu'on sait qu'ils sont couverts par le secret, vous l'avez dit, il y a un délit, la compromission du secret de la défense nationale. Donc on savait qu'il fallait s'y préparer. Et en même temps, on a justifié et on a pesé les pour et les contre d'une publication de cette importance par le fait que nous ne mettions pas en danger des agents sur le terrain, par le fait que les informations révélées étaient d'intérêt public et devaient éclairer le débat public et national, car là, on est sur des angles morts avec les ventes d'armes, en l'occurrence, ou la diplomatie des armes avec des dictatures comme celle du maréchal Al-Sissi.
Quand on parle secret défense, on a l'impression qu'on met en cause la sécurité de l'État, etc. Il faut savoir que là, sur ces, centaines, milliers, dizaines de milliers de pages de documents, les seules informations que l'on a révélées au public, ce sont des informations qui sont d'intérêt public, d'intérêt général. C'est ça, en fait, le critère.
On ne met pas tout sur la table.
Évidemment qu'on n'a pas donné le nom des agents de renseignement potentiels qui est inscrit, ou des adresses personnelles, ou des localisations de bases secrètes. On ne fait pas ça. Le tri qui a été fait avec Disclose et Ariane à l'époque, c'était révéler ce qui relève de l'intérêt général. Et là, en l'occurrence, ce que montrent ces documents, c'est que potentiellement la France est complice d'exécutions extrajudiciaires, de crimes de guerre en Égypte. Si ça, c'est pas un critère suffisant pour se dire que, non, malgré la classification d'un document, on peut révéler cette information, je sais pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que le secret défense, c'est pas fait pour couvrir les crimes de guerre, en principe. Et c'est pas un hasard si, d'ailleurs, ces documents finissent par être rendus publics au bout d'un moment. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, et les journalistes, et Ariane Lavrieux qui a fait ce reportage, elle fait pas ça dans une lutte contre idéologique, contre l'armée, contre le secret défense, etc. Là, on a des militaires. Moi, je sais que j'ai des sources au sein de l'armée qui n'étaient pas au courant de cette opération secrète, cette opération Sirli, qui nous ont dit merci, heureusement que vous avez fait ça. Donc, il ne faut pas croire qu'en fait, c'est les journalistes contre les militaires. Non, on a tous intérêt, en tant que citoyens, à pouvoir avoir le droit de révéler des secrets d'État quand ils couvrent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
Voilà, là, ce qui choque, c'est les intimidations et les pressions qui sont mises petit à petit, mais en fait de plus en plus sur les journalistes. Et même leurs sources, en fait. Et puisque, dans la foulée de la garde à vue d'Ariane Lavrieux, trois journalistes de Libération ont été entendus en tant que suspects sous le régime de l'audition libre par la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille. Ils ont été convoqués après une série d'articles sur la mort d'Amine Leknoun, tué par un flic de la BAC à Neuville-en-Ferrain, dans le Nord. Les infractions retenues par le parquet, c'est violation du secret de l'instruction, recel de violation du secret de l'instruction et diffamation publique à raison de la fonction ou de la qualité de dépositaire de l'autorité publique. Dans l'enquête des journalistes de Libération, ce qui est souligné, c'est les manquements de l'IGPN et de la juge d'instruction dans les investigations concernant la mort d'Amine Leknoun. Voilà, la présidente d'Amnesty International, elle parle d'un schéma de menace latente contre la presse, d'une offensive contre la liberté d'informer. La Société des journalistes, des journalistes et du personnel de Libération et la direction de Libération dénoncent une procédure indigne d'un pays démocratique où la liberté de la presse ne doit être en aucun cas entravée. Et on a presque tous les jours des nouveaux exemples des dérives autoritaires du pouvoir en France, notamment ici en ce qui concerne les contre-pouvoirs et la contestation, et ça sent de plus en plus mauvais. bien sur Radio Galère, c'est les infos choisies. On vient d'écouter Camellia Sinensis, nouveau groupe de Lille, Lille en force. Écoutez, ils ont sorti leur nouvelle démo il n'y a pas longtemps cet été. Et tout de suite, on va écouter Fatima Wasak, qui a eu, elle, une certaine exposition médiatique ces derniers temps, et qui, en fait, comme souvent dans ces cas-là, quand c'est des personnes qui parlent d'antiracisme, de féminisme, etc., reçoivent une pluie de menaces, d'insultes, de harcèlement sur Internet par des personnes très courageuses. On les écoute tout de suite.
Je m'appelle Fatima Wasak, je suis politologue, je suis militante écologiste. J'ai cofondé la Maison de l'écologie populaire Vert Dragon et je suis porte-parole du Front de Mer, syndicat de parents des quartiers populaires. Je suis également essayiste, j'ai écrit 2 livres, La puissance des mers et Pour une écologie pirate. Alors quand j'ai découvert cette boucle avec ces messages de menaces de mort avec mon adresse, évidemment je me suis sentie tout de suite en danger. Alors ça ne m'a pas totalement surprise. Je savais qu'en allant dans l'espace médiatique et notamment sur les plateaux de télévision pour porter une parole antiraciste, je m'attendais à avoir ce type de message. Voilà, pour moi ça, c'est relativement normal pour la militante antiraciste que je suis qui tout à coup accède à un espace de pouvoir qu'est l'espace médiatique. Mais c'est vrai que je suis choquée de l'ampleur et de la violence de ces messages. Et oui, je me sens évidemment en danger. Et pour moi, ma famille et mes enfants sont également en danger. Alors évidemment, je n'ai reçu aucun message de soutien de la part des autorités. Et pour cause, moi, je pense que les autorités, le pouvoir en place en France est co-responsable de ces menaces de mort. C'est-à-dire que c'est parce que l'État français regarde ailleurs lorsque des militants antiracistes sont insultés et menacés de mort, qu'il peut y avoir autant de menaces et d'insultes racistes à l'égard de ces militants antiracistes. Moi, là où je pointe du doigt la responsabilité des pouvoirs publics et la responsabilité de l'État, c'est pour dénoncer un deux poids deux mesures. C'est pourquoi lorsque des militants, des personnalités fascistes, racistes sont interpellés, parfois violemment interpellés, pourquoi les autorités et l'État leur assurent protection, leur assurent soutien, et les autorités le font à travers les médias. Pourquoi lorsque ce sont des militants antiracistes, il y a silence radio, et pourquoi on regarde ailleurs. Moi, ça dit beaucoup sur le contexte politique actuel. Si les militants antiracistes sont ainsi mis en danger, toute la population non blanche et musulmane de ce pays est aussi en danger. En tout cas, il ne faut pas attendre de la part de l'État qu'elle soit protégée. On vit depuis plusieurs semaines une rentrée islamophobe et anti-migrant. Il y a eu cette interdiction de l'abaya qui visait la jeunesse musulmane. Cette interdiction de l'abaya, à mon sens, est une manière de dire aux familles musulmanes qui vivent en France, nous allons aller chercher vos enfants, vos filles à l'école. Nous allons aller les y stigmatiser, les harceler, aller violer leur intimité. Et pour moi, tout le monde est visé, toute la communauté musulmane est visée, toutes les personnes racisées, toutes les personnes qui vivent dans les quartiers populaires sont visées. C'est une politique de désancrage, c'est-à-dire que c'est une manière de dire à la population qui vit dans les quartiers populaires, à la population musulmane, vous n'êtes pas ici chez vous. Et la preuve, c'est qu'on vous contrôle à l'entrée des écoles, c'est dire à quel point on vous considère comme pas légitime dans ce pays. Voilà pour moi aujourd'hui ce qui qualifie la politique qui est menée par l'État Macron-Darmanin. Une politique de la hogra, une politique de l'humiliation, voilà, qui cherche à détruire la jeunesse des quartiers populaires, à réduire son champ des possibles et qui ne lui laisse aucun espoir. Dans les messages de menaces de mort qui me sont adressés, on parle de cafards. Moi, je parle de politique de cafardisation, de processus de cafardisation. C'est-à-dire que pour mieux détruire une population, pour mieux l'humilier, pour mieux la déshumaniser, on l'animalise, on la cafardise. Il y a vraiment une politique réfléchie, une politique institutionnelle de cafardisation. On voit que cette politique, elle s'adresse également vis-à-vis de migrants. On le voit aujourd'hui avec les discours de Gérald Darmanin et tous les débats qui ont lieu autour du énième projet de loi immigration, où là aussi on cafardise les migrants, on les sous-humanise, on considère que c'est un danger, une menace qui risque de nous grand remplacer ici en France et en Europe. Et donc voilà, il y a une politique islamophobe, une politique raciste, une politique anti-migrant qui fait pour moi l'essentiel de la politique de l'État Macron-Darmanin aujourd'hui en France. C'est dire le risque qui existe aujourd'hui pour la population non blanche et la population musulmane en France est un risque véritablement de basculement dans un État raciste. On sort de l'État de droit. Là, le risque, il est de basculer dans un état d'exception, où on sort, où on sortirait la population musulmane, la population qui vit dans les quartiers populaires, on les sortirait de la citoyenneté. Je cite Édouard Philippe, qui dans son dernier livre parle d'un droit et d'une organisation spécifique aux musulmans. L'exception que constitue le traitement des musulmans et des populations non blanches en France devient institutionnelle, devient normal, devient légitime. Voilà, c'est ce risque-là qu'il faut avoir en tête et ce risque-là qui dit l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France. Alors, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de dénoncer cet état de fait, on ne peut pas se contenter de dénoncer l'islamophobie, le racisme structurel. Il faut poser la question de comment nous réagissons. Que faire face à ça? Alors, pour moi, il y a deux axes. D'abord, il faut travailler à un véritable projet antiraciste. Antiraciste dédié. Voilà, on n'a plus le temps pour les organisations, pour les personnalités, pour les partis politiques, pour les syndicats, qui nieraient la question raciale, qui nieraient la question de l'islamophobie. On n'a plus le temps, il faut passer la deuxième. Il faut imposer partout où nous sommes, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les organisations de défense des droits humains, dans les organisations féministes, dans les organisations écologistes, partout, dans tous ces espaces politiques et médiatiques, il faut imposer cette question. Que faire concrètement pour que le racisme ne tue plus nos enfants d'une balle dans le thorax ou à petit feu. Voilà. Il faut refuser dorénavant que l'antiracisme ce soit uniquement une variable d'ajustement en campagne électorale. Voilà. Il faut, comme pour le féminisme, un antiracisme autonome et dédié. Alors pour moi, il y a un deuxième axe, et il est à mon sens le plus important, c'est l'organisation politique des quartiers populaires. Moi, je fais l'hypothèse que c'est l'écologie qui va nous libérer depuis les quartiers populaires, qui va émanciper la jeunesse des quartiers populaires. C'est l'écologie qui va permettre d'avoir des espaces où nos enfants peuvent respirer, peuvent jouer, peuvent occuper l'espace public, peuvent mieux manger, etc. Donc moi, je pense que l'écologie, c'est une réponse aux politiques de l'étouffement qui sont menées par les autorités. De manière plus générale, il faut pouvoir s'organiser dans tous les espaces, sur tous les segments, dans tous les secteurs. Donc que ce soit dans l'espace culturel, dans l'espace artistique, encore une fois dans l'espace féministe, il faut s'organiser en tant que collectif, en tant que parents délégués, il faut s'organiser en tant qu'association 1901, il faut essayer de s'organiser là où nous sommes et un peu partout pour dire que nous voulons autre chose pour nos enfants, nous voulons un monde plus respirable. Lorsque Naël a été exécuté le 27 juin, la jeunesse des quartiers populaires s'est soulevée. Elle a exprimé sa colère avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire en cassant quelques vitrines et en brûlant quelques poubelles. Voilà. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ait laissé comme ça nos adolescents, nos jeunes, se mettre autant en danger, parce qu'ils se sont mis en danger, en réalité. Ils ont été mis en danger. Ce n'est pas normal, au sens où c'est aux adultes, aux parents des quartiers populaires, de s'organiser politiquement. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, après qu'on a exécuté Naël? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle a été notre réponse politique? Encore aujourd'hui, quelques mois après, voilà, il y a quasiment rien. On ne s'est pas organisé collectivement pour répondre à ça et pour rassurer nos enfants, rassurer nos jeunes, pour leur dire, voilà, ça n'arrivera plus. On est là pour vous protéger, vous n'êtes plus en danger. Il faut donc, alors je sais que ce n'est pas si simple, mais il faut s'organiser. C'est parce qu'on s'organisera politiquement et collectivement que nos enfants n'auront pas à le faire, en fait. Personne ne protégera nos enfants à notre place. Voilà, les partis politiques ne protégeront pas nos enfants si nous n'imposons pas un rapport de force politique. Nos enfants, il faut les ménager. Nos enfants, il faut pouvoir leur dire, voilà, le monde est vaste. Apprenez toutes les langues qui vont vous permettre de penser le monde, de découvrir des choses nouvelles, d'avoir accès à d'autres cultures, à d'autres savoirs. La relation que l'on doit avoir à nos enfants, c'est ça, c'est d'ouvrir leurs horizons, c'est de leur dire qu'on les aime. Voilà, donc quand l'État, l'institution vient mesurer la taille des jupes de nos filles. Nous, il faut qu'on dise à nos filles qu'on les aime, qu'il faut qu'elles gardent confiance en elles, qu'elles gardent leur estime d'elles-mêmes, il faut qu'elles réussissent, il faut qu'elles aient de l'ambition, etc. Ça, c'est important pour nous parents de le dire à nos enfants. Nous voulons un monde où nos enfants sont heureux, un monde plus respirable, et nous allons travailler pour ça, collectivement et politiquement, depuis les quartiers populaires. Je l'ai dit, c'est un contexte qui est très difficile, c'est vrai, mais il ne faut vraiment pas baisser les bras, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas s'enfermer dans un sentiment d'impuissance. En réalité, on avance. Enfin, tant qu'on sait pourquoi on est là, tant qu'on sait qu'on est là pour nos enfants, pour leur avenir, pour qu'ils puissent être respectés dans leur dignité, on va gagner. C'est presque irrésistible. C'est pour ça qu'on est en réalité autant attaqué. C'est parce qu'on ne lâche pas. C'est parce qu'on essaye justement d'exister politiquement. Les menaces de mort que j'ai subies, c'est parce que j'essaie d'exister politiquement dans l'espace médiatique. Donc c'est bien la preuve qu'on avance. Donc il ne faut vraiment pas lâcher, il faut être solidaire. Voilà, il n'y a aucune raison de déprimer si on est ensemble, si on sait qu'on peut compter les uns les unes sur les autres, si on est en réseau. Si là où on est, voilà, dans l'espace culturel, dans l'espace médiatique, dans le quartier, voilà, là où on est, on se donne la force les uns les autres, voilà, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas.
Voilà, on a écouté Fatima Ouassak qui était interviewée par Le Média, et nous, on passe tout de suite à l'agenda.
Et alors, ce samedi, demain à 14h, à la Porte d'Aix jusqu'à la Place Canna, manif contre le racisme, l'islamophobie et les violences policières.
Dimanche 25 à 16h à la Dare, 127 rue d'Aubagne, il y a une écoute collective de l'émission des collègues du Gang des Gazières qui porte sur la lutte des AED et l'islamophobie en milieu scolaire à Marseille. Si vous voulez écouter le Gang des Gazières, branchez-vous sur Radio Galère les premiers mercredis de chaque mois ou Radio Galère quand ça vous chante.
Jusqu'à dimanche, il y a le festival de sciences sociales qui s'appelle Allez Savoir, qui porte sur les utopies. C'est sous forme de tables rondes, de projections de débats, d'expositions, de balades, de rencontres au musée, de spectacles, d'ateliers. Il y a notamment demain samedi une table ronde autour du bagne et de la colonisation au musée d'histoire de Marseille de 11h à 12h30.
Alors le 27 septembre à 19h, c'est à Transit, il y a la présentation de Lutter pour la cité avec Agnès Deboulay. C'est sur... je suis en train de regarder en même temps en fait. Comment comprendre les plans et le langage des urbanistes.
Ah ça c'est pas mal, c'est important. Ouais. Et le même mercredi à projection rencontre documentaire Les Croquantes, c'est mercredi à 19h30 au Gyptis au 136 rue Loubon dans le 3ème. Et donc ça sera autour des enjeux des femmes paysannes et à suivi d'un débat.
Jeudi 28 à 19h, rencontre avec Félix Tréguier autour de son livre Contre-histoire d'Internet. C'est en partenariat avec la Quadrature du Net et c'est à la librairie L'Hydra Mille Têtes, 96 rue Saint-Sabournin. Soutenez-les.
Et pour finir, à Transit, samedi prochain, à 19h, il y aura la présentation de l'ouvrage collectif PD avec Florent Manelli, Julien Ribeiro et Ruben Tayupo. Voilà, et bien, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
D'ici là, faites gaffe, ce week-end c'est chargé. Hein.
Ouais. Si vous traînez à Marseille, attention, il y a les bleus qui tournent. Et bonne semaine, à la semaine prochaine.
Et après, on peut lancer le concours de quelle couleur est la papa mobile. Allez, ciao.
Ciao, ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.